divertissement, 6 complices, des dizaines de fous rires, un chef de bande. Voilà ce qu'on vous promet jusqu'à 18h sur Europe 1. Tout ça grâce à Laurent Ruquier. Bonjour Laurent.
On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous aurez le plaisir d'entendre Christine Bravo.
Ah, ça sera bien alors. Bravo.
Stevie Boulet.
Oui, il est formidable.
Fabrice Eboué.
Oh, quel bel homme.
Jérémy Michalak.
Intelligent, rapide.
Les commentaires de Gérard Miller.
Oui, mais j'aime bien aussi. Oui.
Et Titoff.
Oh là là, alors ça c'est vraiment le meilleur.
Et merci d'être donc encore plus nombreux à nous écouter, puisque vous le savez, hein, on vous le répète depuis ce matin sur Europe 1, les auditeurs d'Europe sont de plus en plus nombreux pour toutes les émissions dans leur ensemble, mais c'est vrai particulièrement pour la nôtre, plus de 200 000 auditeurs encore en plus par rapport à la dernière vague.
220 000.
Ouais. Mais je faisais notre modeste.
Oui, mais c'est pas la peine. Quand c'est bien, faut le dire.
En plus de ceux de la dernière fois. Quoi.
Ah oui, c'est ça. Ils sont toujours plus nombreux.
Depuis que t'es revenu, d'ailleurs.
Mais ces gens-là ont été pris à une autre radio pour laquelle on pourrait peut-être avoir une petite pensée compatissante.
Non,
c'est pas du tout l'esprit de
Gérard,
de cette
méfiez-vous réjouissante. Parce que, vu l'âge que vous commencez à atteindre, oui, vous pourriez aller dans l'autre radio.
C'est vrai. Mais ça fait déjà longtemps que je pourrais y aller.
C'est étonnant que les grosses têtes aient perdu des auditeurs. Il n'y a pas eu de canicule cette année pourtant.
Oh non. Oh non, écoutez, franchement, Fabrice.
Enfin, il y a eu grand froid quand même.
C'est vrai, ça. Il y a eu un grand froid. D'ailleurs, Eboué, vous y êtes sûrement pour quelque chose, hein, je dois dire. Oui. Au même titre que Titoff, que Jérémy, que Christine, que Pierre Bénichoux, qui n'est pas là et qu'on salue parce que Pierre est en train d'essayer de se remettre de ces chiffres qu'il a du mal à encaisser. Parce que depuis le début de la saison, il me dit : mais qui c'est tous ces cons que t'as engagés ? Et. Donc il ne comprend pas Pierre, il se dit mais c'est pas possible, mais voilà, il est aussi évidemment partie intégrante de ce succès Bénichoux, ce qui n'empêche pas les auditeurs de réagir évidemment à des propos parfois un peu délicats que nous avons dans cette émission, et particulièrement vous, Eboué, là j'ai un auditeur.
Robert peut-être.
Non, c'est pas Robert qui dit c'est pas bien ce qu'a dit Boubouné, parce que maintenant Fabrice a aussi son surnom,
oui, oui.
Joujou et Boubouné.
C'est très bien.
C'est-à-dire
je suis ravi de plus être le seul.
Et on le fait dans le sens inverse. Boubouné, Joujou.
C'est mignon,
mal,
hein.
C'est mignon.
Je sais pas si vous voyez. Titoff, Boubouné et Joujou. 200 000 auditeurs de plus. C'est quand même.
Je crois que c'est des auditeurs qui ont entre 2 et 4 ans.
C'est ça.
Qui nous écoutent.
Ou alors qui vont au banana tous les soirs.
En tout cas, Boubouné a exagéré hier à propos du banquier qui a été bouffé par un requin. Vous savez, vous avez encore fait une mauvaise plaisanterie sur, on va dire, les problèmes mensuels qu'ont les dames. Et ça ne se fait pas sur une antenne de niveau national, Boubouné.
C'était des consignes de sécurité pour éviter les drames avec les requins maintenant.
Après cette longue absence, je m'inquiétais pour Claude Sarraute qui est revenu hier. Je l'ai donc entendu, je ne suis pas plus rassuré.
C'est drôle.
C'est affreux.
Ah, quelqu'un qui envoie un mail pour Titoff qui dit « Titoff ne reçoit pas assez de mails, vous n'en parlez pas suffisamment et moi... » Il suffit que je l'entende, dit Claire, pour que sa voix me mette en émoi. Son timbre, mi-clope, mi-pastis.
Oh là là. Et encore, elle a pas l'odeur. Et encore, elle a pas l'odeur.
Son timbre, mi-clope, mi-pastis m'excite follement. Et en plus, il me fait rire. Alors voilà, Titoff, merci d'arriver à me faire fantasmer entre de bons fous rires. Et si d'aventure, il vous prenait l'envie de faire un petit crochet par Toulouse en redescendant sur Marseille, je serais là. Voilà.
D'accord.
Elle s'appelle Claire. Je le dis pour votre femme Tatiana qui nous écoute tous les après-midi.
Claire de Toulouse.
Stevie, comment ça se passe? Alors, ça y est, vous avez fait vos débuts sur scène?
Ça y est, très très bien.
Je vous ai vu sur Canal Plus hier soir aux côtés de Jeanne Moreau.
Oui.
Elle n'est pas dans la pièce.
Ah non, je rassure. Non, c'était très très
sympa. Pourquoi je vous rassure?
Parce que.
C'est pas le mec. On n'a pas voulu d'elle.
Ouais, je vous rassure, il n'y a que des vrais comédiens dans la pièce. Hein.
On a que des vrais comédiens.
Elle peut pas
jouer dans ce genre de pièce.
Pourquoi pas?
Ça bouge trop.
Parce que c'est une.
Ça bouge trop. Mais vous êtes amie, elle a été sympa avec vous, Jeanne.
Oui, c'est une amie.
Ah, je l'ai vue sur Canal, elle vous a défendu, elle était gentille avec vous.
Mmh.
Non, ça s'est très bien passé. Ah non, même pas.
Pas attaqué, mais elle lui a donné des petits conseils au moment où ils lui ont demandé, ils vous ont demandé de jouer le Cid, c'est ça?
Ouais, le Cid, Racine et je sais plus quoi.
Alors, comment ça se passe à la fin de la pièce? Il y a des bons applaudissements, vous êtes
heureux? Oui, franchement, les gens sont contents, nous aussi, le plaisir est partagé, c'est un régal de jouer chaque soir.
Georges Belair, il est sympa?
Ah ouais, non, ça, il est adorable même.
Georges Belair, Sonia Dubois.
Sonia Dubois, Indra.
Qui ça?
Indra.
La chanteuse.
Ouais, la chanteuse.
Sans déconner.
Mais bien sûr. Elle s'en sort plutôt bien.
C'est pour ça que Jeanne Moreau pouvait pas.
Ah non, parce qu'il y a des. Elle est pas au niveau.
Il y a des comédiens dans la pièce ou pas?
Qu'il est con. Vous avez vu comme elle a changé, Christine, ces derniers temps.
Elle est habillée en écolière quand même aujourd'hui.
On dirait une écolière japonaise, il y a la petite jupe.
Elle est en jupe presque plissée. Enfin, je crois que c'est la jupe qui est plissée.
Non, non, c'est une jupe droite.
Je t'ai rarement vu aussi élégante. Sérieusement, je t'ai rarement vu aussi élégante.
Il y aurait un homme là-dessous. Soulevez
la jupe. Je vais les voir. Je vais regarder.
C'est pas impossible.
C'est pas impossible. Ouais. Elle a l'air amoureuse.
Mais on dirait Britney Spears dans son premier clip.
Enfin, il faudrait pas qu'il y ait France-Écosse au rugby ce week-end quand même. Il se balader comme ça dans Paris. Hein.
Non, mais il y a un homme dans votre vie ou pas?
Ouais, un demi, ouais.
Ah, non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi.
C'est une bonne nouvelle. Pour moi, tu étais quelqu'un qui désespérait de l'amour
mais
et du sexe.
Mais t'es malade. Ah non, j'ai franchement. Jamais désespéré de l'amour et du sexe. J'en avais absolument.
Non, mais elle vous disait ça parce que vous insistiez.
Oui, c'est vrai.
C'est une manière polie de refuser.
Elle m'a repoussé pendant des années, mais.
Tu vois, Christine, ça a fait du bien que ta fille invite des potes à la maison.
Vous allez nous le présenter ou pas?
Ça va dépendre.
Ça va dépendre de combien de temps le reste.
Si ça dure.
Ouais, ça va dépendre de combien de temps il va rester, quoi.
Il est jeune?
Mais enfin,
il est fini le travail à 16h30.
Il sort de l'école.
Il finit le travail à 16h30.
Ce soir, Christine va au concert de Tokyo Hotel. Hein.
Il l'invite, mais il doit pas rentrer trop tard. Il a la permission de
c'est
minuit.
C'est pas vrai, c'est un des joueurs de Tokyo Hotel.
Est-ce qu'on peut passer à la question?
Alors, c'est quand même génial. Non, mais nous, on est contents quand il se passe quelque chose.
Franchement.
Regardez, par exemple, Titov qui va bientôt être papa. Moi, ça me ravit de bonheur. Stevie sur scène, il est heureux. Je suis content pour lui. Joujou, bon, il se passe pas grand-chose dans votre vie,
non,
Joujou.
Pas grand-chose, non, c'est vrai. Femme.
C'est vrai qu'avec ma meuf imaginaire, il se passe pas grand-chose.
Mais ouais, un jour, on aimerait bien la connaître aussi, quand même.
Mais vous l'avez déjà vue, vous la connaissez très bien.
Ah non, je l'ai vue. Moi... J'ai une fois, vous m'avez montré la fille avec les gros seins.
Oh Non, écoute pas mon amour, je t'aime, c'est tous des cons.
Celle qui était sortie toute nue du gâteau une fois.
Non, ça c'était ta meuf Gérard, ça.
On va se gêner. Le challenge auditeur. Le moment que Julien Lepers nous envie.
Bon, il était temps quand même d'interrompre ces conversations d'ordre privé pour prendre au téléphone Diane et Cédric. Bonjour Diane.
Bonjour à tous, bonjour Laurent.
Pardon.
Félicitations pour vos audiences.
Oh merci, c'est gentil Diane. Il y a longtemps que vous nous écoutez, vous?
Ça doit faire 3-4 ans maintenant.
3-4 ans quand même, vous êtes une vraie fidèle. Alors, que faites-vous à Paris?
Je suis étudiante.
Étudiante en quoi?
Sciences politiques.
En Sciences Po. Cédric, lui, nous appelle depuis San Francisco. Quelqu'un qui intègre notre communauté, donc. Bon.
Notre communauté.
Pourquoi quand quelqu'un
parlez pour Jérémy et vous?
Quand quelqu'un appelle les États-Unis, il appelle tout le temps de San Francisco.
C'est bizarre ça. Bonjour Cédric.
Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde.
Vous n'êtes pas le premier auditeur, effectivement, qui nous appelle depuis San Francisco. Je ne sais pas s'il y a une sorte de club là-bas, des auditeurs dont on va se gêner. Vous en avez croisé d'autres qui nous écoutent là-bas?
J'en ai croisé plusieurs personnes, ouais. Je crois que c'est surtout vous qui aimez bien appeler San Francisco, je crois.
Ouais.
Surtout le maire, il est beau.
J'y suis allé deux fois dans ma vie. Ouais. Une fois d'ailleurs.
Avec moi.
Chez Christine Bravo et son mari de l'époque, qui lui est resté là-bas. Il est devenu gros et moustachu. Et puis la deuxième fois, il y a peu de temps, effectivement, c'était l'année dernière. C'est une très jolie ville, je dois dire.
Ah ouais.
J'ai bien aimé la deuxième fois.
C'est vraiment un pourri.
Qu'est-ce que vous faites à San Francisco?
Je travaille pour la filiale américaine d'une grande banque française.
Non, on veut dire qu'est-ce que vous faites le soir à San Francisco?
Je suis marié, j'ai des enfants.
Très bien, Cédric. Dans une banque.
C'est ce que disait le mari de Christine aussi. Hein.
Dans une banque américaine ou française?
Une banque américaine, mais filiale d'une banque française.
Filiale d'une banque française. Et c'est sympa la vie là-bas?
C'est très très sympa. Il fait toujours beau, il fait souvent chaud, les gens sont très sympas.
Oh non, il fait frais, il fait frais à San Francisco, il y a du brouillard.
À San Francisco même, mais pas autour.
Pas autour, c'est vrai. Il suffit de passer le pont. Vous le traversez, vous, le pont pour aller au boulot?
Tout à fait, moi j'habite de l'autre côté de la baie, dans l'East Bay, donc pour aller à San Francisco, il faut passer ce qu'on appelle le Bay Bridge, et il y a une énorme différence de température entre l'est de la baie et San Francisco.
Diane, c'est facile la vie à Paris? Vous êtes parisienne au départ ou vous êtes uniquement là pour vos études?
Non, je suis parisienne.
T'as remarqué qu'à Paris, il pleut, mais quand tu passes le plomb, il pleut encore.
Ça va mieux.
Diane contre Cédric, ce sera dans un instant pour la première question, le premier challenge du jour. Europe 1, Europe 1.
Et qui dit on va gêner sur Europe 1 dit forcément Laurent Ruquier.
Prêt pour la question, Diane oui. et Cédric. Oui. Il va falloir aller plus vite que les six chroniqueurs ici présents. La question, la voici. C'est un ancien directeur de cabinet de Martine Aubry qui, hier, a dû faire quelque chose d'assez désagréable pour lui. Quoi donc ?
Une intervention médicale ?
Non. Ah oui, vous avez vu ça que
avec
Martine Aubry a un problème à un œil. Ouais, ouais. On ne sait pas si quelqu'un lui a tapé dessus. Si,
elle a on eu... se méfie, elle peut finir à l'extrême droite avec ce genre de choses.
Non, mais elle n'a pas l'œil crevé, mais elle a eu peur quand même pour sa rétine et tout. Elle a même dû annuler ses vœux à la presse hier et elle porte, nous dit-on, un bandeau sur l'œil. Oui, ah, je vois que Diane a trouvé peut-être.
Est-ce que ça a rapport avec la SNCF ou les problèmes qu'il y a eu ?
Oui, alors allez-y.
J'ai entendu qu'il devait, pour la concurrence avec la SNCF, quelque chose comme ça.
Ah, ça ne va pas, ça. Oui. Qu'est-ce qu'il a dû faire hier, l'ancien directeur de cabinet de Martine Aubry ?
Il a dû s'excuser pour les retards à la gare Saint-Lazare.
Il a dû s'excuser pour les retards à la gare Saint-Lazare. Bonne réponse de Diane. Effectivement. Car il s'agit de monsieur Pépi, qui, vous le savez, dirige la SNCF. C'était un quelqu'un qui était à gauche, qui avait été choisi par Nicolas Sarkozy pour diriger la SNCF. Et c'est un ancien directeur de cabinet de Martine Aubry, monsieur Pépi, on l'a vu aux 20h hier, dire qu'il allait rembourser les usagers de leur carte Navigo. Et surtout, il a dit que ça ne se renouvellerait plus. Il a voulu s'excuser. Enfin, il faut dire que Nicolas Sarkozy, il avait un peu pressé à le faire, hein, quand même.
Navigo, c'est la RATP, c'est pas la SNCF.
Je crois que c'est sur toute l'île de France, Navigo, Gérard. Quand on ne sait pas, on dit rien.
Non, mais ça concerne.
Monsieur Pépi, en tout cas, s'est excusé hier au journal de 20h. À la demande du président de la République qui quand même a dit qu'il fallait pas que ça se renouvelle ce genre de choses, la gare Saint-Lazare fermée pendant quasiment une journée. Gérard, vous défendez quand même les syndicats, j'imagine, dans ces cas-là. Vous en foutez de la gauche aujourd'hui, hein.
Mais pas du tout. Je trouve simplement que c'est extraordinaire. On sait pourquoi cette gare a été fermée. C'est un événement exceptionnel. À événement exceptionnel, c'est vrai, fermeture exceptionnelle. Alors à chaque fois, on nous dit que les usagers sont gênés, ce qui est une évidence, mais qu'on arrête d'utiliser le mot otage chaque fois qu'il y a un mouvement de grève. Quand on est fonctionnaire, il y a un droit qui s'appelle le droit de retrait. On a le droit effectivement d'arrêter de travailler sans préavis lorsqu'on considère que la sécurité est en danger.
Je savais que j'aurais pas dû vous demander.
Mais non, mais c'est. Je trouve extraordinaire qu'il y ait une sorte d'automaticité de condamnation de tous les mouvements revendicatifs ou de grève. Automatiquement, on dit « Ah oui, là, c'est vraiment pas justifié. »
Ce conflit a en tout cas permis à Diane de remporter le filet garni, Diane.
Bravo, Diane. Ça fait longtemps. Hein.
Bravo, Diane.
Merci.
Ah bah, vous allez être contente, en plus. Cédric, je suis désolé pour vous, hein.
Non, félicitations à Diane. Moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait des problèmes à la gare Saint-Lazare.
Et puis, son coin tellement, lui.
Ça, c'est normal, à San Francisco, c'est sûr que la gare Saint-Lazare, c'est pas direct. Hein. Il y a plusieurs changements, comme dirait l'autre. Vous gagnez, chère Diane, plusieurs livres. Le livre de Christine Orban, publié chez Albin Michel. N'oublie pas d'être heureuse. Black Bazar, le bouquin signé Alain Mabankou, publié au Seuil, dont on a parlé hier. On a dit que c'était plutôt rigolo. Ulysse from Bagdad, le livre signé Eric Emmanuel Schmitt chez Albin Michel. Le DVD de Kung Fu Panda, vous avez vu ce film ?
Non.
Ah bah voilà, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes étudiante. Mais c'est pour les adultes aussi, Kung Fu Panda, vous recevrez le DVD, on en parlera tout à l'heure. Des places en veux-tu, en voilà, puisque vous êtes à Paris, vous allez pouvoir en profiter pour, par exemple, aller applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club, Stevie Boulet au Théâtre des Nouveautés, dans Ma Femme est Folle, Le Jour où j'ai appris que j'étais juif, Jean-François Derec au Théâtre du Gymnase, Petit Théâtre du Gymnase, deux places pour Gérard Miller, dis donc, vous avez... c'est trop.
Ouais.
Mais c'est vrai que je sais pas comment je vais faire pour aller voir tout ça, mais bon, on va s'arranger. Hein.
Ah oui, ça m'a... Oh, écoutez, sur un mois, vous pouvez ?
Oui, ça va.
En fait, on offre deux places, mais on est obligé d'y aller le même soir.
Il va falloir choisir, Diane.
On vous embrasse et on vous applaudit, Diane. Bravo.
Merci.
Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy, Joujou Michelac, Gérard Miller et Titoff entourent aujourd'hui Laurent Ruquier.
Europe 1, on va se gêner. La question facile, la question qui récompense Joujou.
Évidemment, vous allez connaître tout de suite la réponse. Patrick McGowan, vous savez qui c'est ? L'acteur vedette de la série culte Le Prisonnier, décédé à l'âge de 80 ans à Los Angeles, des suites d'une maladie. Tout le monde se souvient de ce feuilleton dans lequel il prononçait régulièrement cette fameuse phrase.
Je ne suis pas un numéro.
Je ne suis pas un numéro, mais justement... Quel numéro était-il dans ce feuilleton ?
13.
Non, pourquoi c'est, 13
c'est... Au hasard.
Bah, non. Comme,
ça, c'est la question facile.
7.
6.
Numéro 6. Excellente réponse de Titoff.
Je savais que j'étais pas loin.
Patrick McGowan était le prisonnier dans seulement 17 épisodes. Hein, c'est un feuilleton qui n'a pas duré tant que ça. Seulement 17 épisodes de ce feuilleton.
Là, c'est l'hécatombe hein, quand même. C'est-à-dire qu'il y a lui qui est mort, il y a le mec qui jouait dans L'île Fantastique qui est mort, il y a Derrick qui est mort, il y a un mec qui jouait dans L'Homme de Fer qui est mort.
C'est-à-dire les vieux, ils meurent.
Première série.
C'est les premières séries télé.
L'hécatombe est groupée. Quoi.
Là, si vous prenez, je sais pas moi, par exemple, une série toute récente, bah, les gens de Plus belle la vie sont ils tous vivants pas. Encore.
En revanche, les téléspectateurs, c'est une autre histoire.
Vous parliez d'un autre décédé de série, Michel Hac, Ricardo Montalban, effectivement. Alors, je sais pas qui c'était, dans L'île Fantastique, est mort, lui, à l'âge de 88 ans. Je me souviens même pas de ce feuilleton, L'île Fantastique.
C'est là où il y avait l'homme avec de petites tailles, enfin, on dit le nain, je sais que c'est. Il y avait le nain comme avec le connu aux États-Unis. C'était ça, L'île Fantastique.
Tatou.
Comment il s'appelait?
Tatou. C'était Tatou son prénom?
Bien sûr, c'était Tatou.
Vous connaissez toutes les séries Titoff, hein?
Un peu.
C'est laquelle votre préférée?
Six Feet Under. Ah, le Soprano. Ouais,
c'est bien ça?
Six Feet Under, c'est la série la plus culte qui existe parce que au niveau d'écriture, c'est très recherché. Et moi qui, comme beaucoup de gens, très peur de la mort, c'est une entreprise familiale de croque-mort.
Ouais.
Et à partir de là, c'est la vie au quotidien de cette petite famille.
C'est réalisé
et c'est
par
très
Francis
décalé.
Huster.
Non.
Pourquoi ? C'est la nuit des morts vivants.
Dans le Figaro aujourd'hui, c'est la question suivante. Dans le Figaro, on nous donne la liste des 10 romanciers français qui ont vendu le plus de livres en 2008.
Alors, Gabalda.
Êtes-vous capable de me donner les 10 ?
Les 10. Ouais.
Lévy. Musso. Marc Lévy, c'est le numéro 1.
Chatham.
Gavalda, c'est la numéro 4.
Non. Fred Vargas est dans les 4 premiers.
Fred Vargas est la 3e.
Paul Solitaire.
Non.
Catherine Pancol.
Je vais essayer Nothomb.
Amélie Nothomb, la 5e. Catherine Pancol, bravo Stevie, est la 6e.
Chatham. Maxime.
Non. Victor Hugo.
Non, parce qu'il y serait peut-être, mais il s'agit des auteurs vivants. Parce que c'est pas ceux qui ont le plus vendu avec un seul livre. Hein. Ce sont les 10 romanciers français qui ont vendu le plus de livres en 2008, toutes éditions confondues, c'est-à-dire avec leurs nouveaux livres, leurs anciens, les livres de poche,
Jean d'Ormesson.
Non, il n'y a pas d'Ormesson. Non, il n'y a pas Houellebecq.
Il n'y a pas Max Gallo.
BHL.
Non, il n'y a pas BHL.
J'ai oublié le.
Vous avez Marc Lévy, vous avez Musso, vous avez Vargas, vous avez les 3 premiers. Vous avez Gavalda, la 4e, Amélie Nothomb, la 5e, Pancol, la 6e. Il vous manque finalement les 4 derniers.
C'est des garçons, des filles.
7, 8, 9 et 10. 3 garçons, une fille.
Christine Angot ?
Non, non, non.
Avec Assis ?
Non,
non, non.
Avec Assis ?
Non, 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 non.
C'est que des romanciers, ça peut pas être un livre politique.
Il y en a un des 4 qui était dans le filet garni tout à l'heure. Hein.
Mabankou ?
Non.
Il y en a un des 4 qui était dans le filet garni.
Non, Ulysse Machin.
Ah, Éric Emmanuel Schmitt.
Éric Emmanuel Schmitt, bravo Michalak. Il en manque plus que 3.
PPDA ?
Non, putain, il y a un auteur vraiment alors très connu qui fait des best-sellers sur best-sellers, qui a son public, très détesté des critiques comme tous les écrivains qui vendent beaucoup, vous savez, c'est souvent le cas.
Ah, Bernard Werber.
Bravo Stevie, bien. Bernard Werber, exact. Oui. L'auteur des fourmis et autres livres un peu, on va dire, de science-fiction ou philosophiques. Et puis, vous avez quelqu'un qui a finalement fait peu de livres à grand tirage, mais il se trouve que le dernier s'est énormément vendu. C'est un des best-sellers de ces 2 dernières années.
C'est le Goncourt, non ?
Donne le titre.
Non.
Ça a été récompensé par un prix ?
Je ne crois pas qu'elle ait eu un prix.
Pour... Ah, elle,
oui. Ouais. Oui, c'est la femme, oui. Mais le film est en train de se tourner.
Oui, c'est le hérisson, évidemment.
Et
c'est
oui.
Son nom, c'est donc le... j'ai un trou sur le nom.
Quelle horreur.
J'ai lu en plus son premier livre sur la cuisine. Comment s'appelle-t-il ?
Maïté ?
Non. Elle écrit un livre très amusant sur la cuisine.
Le premier livre s'appelait Une gourmandise.
Voilà, absolument.
Et effectivement, et son best-seller, c'est le hérisson. C'est Muriel Barbery. C'est la 10e du classement. Alors, il vous en manque un. Et alors, lui, alors là, pour le coup, il a eu un énorme prix.
Énorme.
Hein. Goncourt.
Énorme.
Pas Goncourt.
Même plus.
Renaudot.
Mieux que le Goncourt.
Mais oui, le prix Nobel.
Le haut d'or, le haut d'or.
C'est mieux que le Goncourt.
C'est Modiano.
Le prix Nobel de littérature.
Ah, le Clésio. Ah.
Le Clésio, bravo Michalak. Eh bien, je note que toutes les bonnes réponses ont été données par Stevie, Michalak, Titoff et Miller a été absolument nul.
J'ai dit tous les premiers noms, je connaissais les 4 premiers, excusez-moi.
Tout le monde connaissait.
Les 4 premiers.
Oh, c'est facile de dire Marc Lévy et Anna Cavalda.
Fred Vargas.
Alors, c'est pas mal. Vous auriez donné ces 10 là, vous ?
Non, mais le, ça, il y a une logique, puisqu'effectivement, une fois que vous l'avez dite, on voit bien que c'est quand même
merde,
la liste la plus
Qu'est-ce
évidente.
Qu'est-ce qu'il y a merde
quoi.
Alors
bah, et la plupart sont chez Albin Michel. Hein. Moi, je vais signer avec Fixo, ça me fait peur.
Elle est tarée, elle.
Non, mais.
Putain.
Avant que tu vendes comme Fred Vargas, il y a un petit peu de marge quand même.
Albin Michel qui rafle tout, effectivement. Musso, je savais qu'il était chez XO Édition.
Musso, je savais pas que c'était un type qui vendait autant. Hein,
ah si, ah là là, c'est énorme.
Moi, j'ai lu ses premiers livres. Placide et Musso, c'était. Hein,
oui.
En édition de
Oh, tu te rappelles. Oh, et ça, c'est une réflexion de Caillot. Ouais. Je te jure. Tu te rappelles quand on était, oh là là, quand on allait en vacances. Il avait son petit seau, sa petite pelle et son Placide et Musso. Les petits bouquins carrés.
Ouais.
Tu sais que personne.
Et Raon, alors, c'était, et Raon.
C'était une époque, excusez-moi, c'était une époque où le Parti communiste était puissant.
Mais oui.
Il que Raon, ça y est, Placide avec et Musso.
C'était oh là là. Des personnages. On se retrouve après la pub.
Allez, on continue de jouer avec l'actualité sur Europe 1, tout ça grâce à Laurent Ruquier.
Dans un instant, nous aurons au téléphone Jack Gaspard. Jack Gaspard n'est pas premier dans sa catégorie en ce moment, quand je regarde le classement général, puisque devant lui, on peut lire par exemple les noms de Jean-Philippe Pontier, de Peter Carlson, et le premier, c'est Emile Inaouen. C'est quoi justement sa catégorie à notre interlocuteur ?
C'est du sport.
C'est du sport.
C'est le Dakar ou pas ?
C'est pas le Dakar, et c'est un sport dont on a parlé il y a peu de temps dans cette émission, mais on n'avait pas encore réussi à joindre un représentant de ce sport au téléphone. Dans le babyfoot, souvenez-vous, on avait même le président de la fédération.
Bah, triathlon.
Pas le triathlon non plus.
Biathlon.
Jack Gaspard, en plus, on a vraiment de la chance de l'avoir au téléphone parce qu'il est quasiment là en pleine compétition.
Hein. Ah, c'est quelqu'un qui se déplace.
Ah oui, il se déplace.
Il y a des catégories de
c'est
points.
C'est la moto.
Non, non.
C'est pas dans le Vendée Globe.
C'est pas dans le Vendée
Globe.
Le ski. Il est entre la 9e et la 10e place en ce moment. Ça dépend du classement de l'étape ou du classement général.
Ah, de l'étape.
Ah, y a, du cyclisme.
C'est pas du cyclisme.
Il peut nous appeler malgré tout.
Eh oui, 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 oui.
Il peut nous appeler
en
terre. Ah, c'est un mocheur.
C'est un mocheur.
La course de chien de
traîneau. Bonne réponse de Fabrice Eboué. On en a parlé l'autre jour de la 4e grande Odyssée qui est partie d'Avoria et qui va jusqu'en Maurienne à Val-Seny.
Oh, c'est dingue.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais je croyais que t'allais dire d'Avoria jusqu'au pôle Nord. Et là, tu nous dis, oui, bon, il va faire 200 mètres en.
Il a fait Courchevel l'Alpe d'Huez. C'est plus difficile de faire ce sport ici qu'au pôle Nord. Hein, quand t'arrives sur le goudron, les graviers, tout ça.
Le chien est mort. Oui, le traîneau est plus difficile à tirer. Ne vous moquez pas, il y a 800
km.
800 km de compète, hein, quand même, n'est-ce pas, Jack Gaspard, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est 800 km en tout, c'est ça?
Voilà, 800 km et 25 000 mètres de dénivelé, voilà.
Ah, donc, d'accord.
Et donc, vous êtes 10e?
Alors, j'étais 9e hier, là. Voilà, 9e.
C'est pas si mal, donc, déjà. Combien de chiens, si on dit
concurrence, c'est pas extraordinaire non plus.
Combien de chiens pour tirer votre traîneau?
10 chiens, donc dans un pool de 14, c'est-à-dire qu'on démarre la course avec 14 et chaque jour...
Vous en abattez un?
Il le bouffe.
Il y en a un qui, ouais, il vous en mange un.
Et votre prénom, c'est Jack, c'est pas Jacques. On est d'accord,
voilà,
c'est Jack comme Jack London. Voilà, ouais.
On est obligé de jouer avec des chiens de traîneau? On peut jouer avec des teckels ou des choses comme ça?
Sur cette course, non, ce serait mal vu à mon avis, mais ça s'est fait avec des caniches, ouais, mais en Alaska, oui.
Ah oui, et c'est Christophe Ondelat qui les dressait. Un musher, rappelons-le, est un conducteur de traîneau à neige tiré par un attelage de chiens. 10 chiens, moi je pensais qu'ils étaient 2-3 les chiens en fait seulement. Ah, faut qu'ils soient par nombre pair évidemment.
Oui, enfin sur les courses en général, ils sont par terre quoi.
Parce bon, que si tu mets un nombre impair
à droite,
de chiens,
tu à gauche, ouais.
tu tournes en rond,
tu tournes en cercle.
Est-ce qu'ils s'arrêtent pour pisser de temps en temps? Parce que moi mon chien par exemple quand je le sors, il s'arrête tout le temps, ces chiens.
Ah oui, c'est
vous.
Ouais, bah ils sont des animaux, hein. Ils ont, mais bon, c'est vrai qu'ils sont un peu formatés quand même.
Et vous, est-ce que vous courir. Vous arrêtez pour pisser?
Il faut qu'ils pissent tous en même temps en plus.
On n'a pas le temps, non.
Mais il y a des étapes. Ça veut dire que vous dormez dans des hôtels au fur et à mesure des étapes, ou vous dormez vraiment plein air
La course, la particularité de la course, elle est entrecoupée donc d'étapes où on est confortablement installé, mais on a des bivouacs assez durs là. Le dernier, il faisait -15, -17. Les chiens sont dehors surtout, quoi. Hein.
Ce sont des huskies, vos chiens?
Non, ce sont des. Alors, ils étonnent un peu les gens parce qu'ils ont un look plutôt chien de chasse. Ils sont typés chien de chasse. Ce sont des chiens dans leur gène qui ont du husky, mais qui sont recroisés, retrempés avec des races de chiens très résistants, très endurants, quoi. Moi, c'est du pointer. Il y a d'autres éleveurs qui ont des. D'autres mocheurs qui ont des.
Est-ce que vous connaissez les noms de vos chiens?
Évidemment, oui.
Ah oui?
Alors,
Bien sûr.
Comment il s'appelle, chien, vos 10 chiens?
Bah écoutez, en tête, vous trouvez donc un mâle, une femelle, Vexon, et puis son copain, il s'appelle Gino. Derrière, il y a Ice et une femelle, Adélie.
C'est toujours un mâle avec une femelle?
Non, non, pas forcément. On les appareille un petit peu par affinité, par goût. Ce qu'il faut,
c'est comme dans la vie, hein, c'est comme pour les êtres humains.
Voilà. Ouais. Donc, après, j'ai justement deux mâles, un qui s'appelle Finn, l'autre qui s'appelle Alto.
Donc là, c'est des chiens gays, là.
Des chiens homo, ça.
Ils sont des chiens, voilà, ouais, ouais. Enfin,
ouais, ouais.
Et donc derrière il y a un collier en cuir,
avec un collier en cuir, une grosse moustache.
Ouais, voilà.
Il y a deux gros nounours derrière. Il y en a un qui est un artiste, il s'appelle Van Gogh. Il a un nom bien choisi, vous voyez.
Ensuite, avec une oreille en moins.
Et puis il a les oreilles qui pendent, lui. Et ensuite il y a Velcro, parce qu'il était très collant quand il était petit.
Qui décroche la neige.
Et puis un qui s'appelle Théops.
Je faisais justement remarquer, Christine, que vous n'alliez pas jusqu'au pôle Nord. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs que le prince Albert, ouais, lui, a réussi cet exploit d'être, nous dit-on dans la presse aujourd'hui, le seul chef d'État au monde à avoir fait le voyage à la fois au pôle Sud et au pôle Nord.
Il n'y est pas allé entre nous.
Il est allé en yacht. En bobsleigh. Ouais.
En yacht.
Dis donc, il doit galérer pour trouver des Africaines au pôle Sud. Hein.
Est-ce que vous avez une chance de remonter sur vos concurrents, monsieur Gaspard?
C'est-à-dire, l'objectif pour moi cette année, c'est de découvrir la course. Et puis, il faut jouer l'économie. Hein, donc... on va voir. Là, il paraît que la deuxième partie va être un petit peu moins difficile en matière de relief. Donc,
mais les chiens sont tous à vous ou passés par Kiloutou, des choses comme ça?
Non, oh.
Kiloutou.
Toutou, ouais. Non, ils sont tous à moi, ouais. Ouais.
Et il y a quoi à gagner?
Il y a quand même 30 000 dollars, donc de prime pour le premier. Voilà.
30 000. Ça en fait des croquettes achetées avec 30 000 dollars.
Ça fait pas mal de croquettes, ouais.
On nous rappelle évidemment que les mushers les plus connus sont Nicolas Vanier, Paul-Émile Victor, Norman Vaughan et Sébastien Dos Santos Borges. Vous êtes d'accord avec ça?
J'aurais pas fait ce classement, mais...
Ah, quel classement vous auriez mis, vous?
Non, mais moi, je suis plutôt dans la course. Voilà, donc j'ai les références, c'est Robert Sorli, là, qui est présent sur la Grande Odyssée, donc qui est un musher norvégien qui a gagné deux fois la Ilivarod. Voilà, des gens comme ça, Emily Nowen aussi, un Suisse très très fort, voilà. Donc,
On nous précise dans le règlement qu'on ne peut pas changer les chiens pendant la course.
Voilà, c'est ça. Donc chaque étape.
Mais pourquoi ils ont des couches?
Non, c'est en cas de coup de fatigue ou de petits problèmes pour le chien. Donc le règlement impose aux concurrents de charger le chien dans le traîneau. Si par exemple on est sur une étape qui se passe avec un bivouac intermédiaire et que le chien est fatigué, on est tenu donc de le ramener jusqu'au point d'arrivée, quoi. On peut
pas. Vous pouvez pas le laisser sur une aire de repos, quoi.
Voilà, on peut pas l'abattre sur le.
On peut pas l'abattre.
Voilà, ce serait mal vu.
30 000 dollars.
Ce sont des chiens, s'ils n'étaient pas attachés à un traîneau, ils feraient peur si on les croisait dans la rue, non?
Ah, pas du tout, ils sont très très amicaux avec l'homme, ce sont des chiens très très placides.
Et on vous remercie en tout cas, monsieur Jack Gaspard. Vous avez bien fait de prendre un prénom un peu américain, parce que quand on s'appelle Gaspard, ça aide. Et en tout cas, on vous applaudit et on vous encourage à remonter dans le classement. On espère même que vous gagnerez. Et ça nous donne l'occasion de rappeler et de signaler que nous, la semaine prochaine, on sera aussi avec nos chiens dans notre traîneau horaire, 16h-18h, en direct à l'Alpe d'Huez pour le festival du film d'humour à partir de mardi et jusque vendredi.
Et
16h.
Surtout pour échapper à Daniel.
Elle va venir.
Salut Jack Gaspard.
Je vous remercie, au revoir.
Ça le fait quand même comme nom.
Ah
ça.
Oui,
Jack Gaspard.
Salut Jack Gaspard.
Ouais, Jack Bauer, ça faisait mieux quand même, mais bon, Jack Gaspard, c'est pas mal.
Francis Cabrel, Des hommes pareils, c'est le nouveau single extrait de son album qui cartonne tant.
Et c'est la suite dont on va gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices.
La question politique spéciale. Petite phrase.
Qui a déclaré il faut bien commencer un jour à être ancien ministre?
Quelqu'un qui
Xavier Bertrand.
Xavier Bertrand, ouais.
Xavier Bertrand, c'était facile. Bonne réponse de Stevie. Et Christine, bravo, c'est plutôt drôle d'ailleurs comme phrase. Ouais. Il faut bien commencer un jour à être ancien ministre, l'ex-ministre du Travail. Enfin, jusqu'à ce soir, il est ministre du Travail puisque normalement, le remaniement ministériel sera annoncé par un simple communiqué. Hein, d'ailleurs, il n'y aura pas un gros effet d'annonce. Et évidemment, le plus gros changement, c'est la succession de Brice Hortefeux, reprise donc par Monsieur Éric Besson qui hérite donc du ministère de l'Immigration, de l'intégration et etc etc.
Et de la trahison. Oui.
Ça y est.
Oh non, on va pas recommencer.
Oh non, on va pas recommencer.
Il y a prescription.
Mais oui.
Mais c'est quand même une vraie vacherie que lui fait le président de la République.
Ça plus vache, c'est on peut sûr. Pas imaginer.
Ah franchement.
Extraordinaire.
Est-ce qu'il s'en rend compte, vous croyez?
C'est on va pas faire la psychanalyse de bas étage, mais la célèbre phrase de Ségolène Royal, qui connaît Monsieur Besson, ça lui est resté en travers de la gorge. Et plus en effet, il est le premier de la classe, plus il est heureux. Mais je pense pas une seconde qu'il regrette ça. Ah non, mais c'est un personnage extraordinaire. C'est vraiment un personnage de roman quand même, ce type-là. Déjà avec une vie assez étonnante, avec une famille quand même assez étonnante. C'est lui qui a quand même cette fille génialissime qui a 14 ans réussi à écrire des best-sellers. Enfin, on l'avait reçu sur le plateau de Laurent il y a quelques temps. Elle était surprenante. Donc c'est quand même une famille très étonnante.
Et puis bon, le Grand Bleu.
Oui, le Grand Bleu.
Taxi.
Les succès taxi, qu'on taxi, connaît, taxi, la production française.
Moi, il met pas de ce mec. Hein, ouais, il fait de la politique, tu vois. Après, ils sont partis.
Nicolas Sarkozy, incroyable. En tout cas, le piège, évidemment, en le nommant au ministère de l'immigration et de l'intégration, pour quelqu'un qui était à gauche avant, c'est quand même une belle,
fout mal, hein.
C'est quand même une belle vacherie. Hein.
Cela dit, c'est
oui,
aussi...
mais cela dit, il peut changer un peu ce ministère. Il peut être plus souple qu'Hortefeux,
oui,
par exemple.
C'est ça.
C'est peut-être pas forcément que négatif.
C'est pas un ministère d'accueil, hein, au départ. C'est juste pour virer les gens. Donc, c'est un peu compliqué.
Pas forcément.
Avouez quand même que c'est l'ironie du sort que le président de la République ait choisi comme ministre de l'immigration, quelqu'un qui va dire aux étrangers qui viennent chez nous, vous n'avez pas le droit de quitter votre camp pour venir trouver un travail dans un camp adverse. C'est un peu ce que lui a fait, vous voyez.
Et pour répondre aussi à Stevie qui dit que le ministère n'est pas seulement un ministère de reconduite à la frontière, quand Hortefeux a fait son bilan, il l'a fait uniquement sur les 30 000 virés de France, qui est en plus un chiffre complètement farfelu, parce que si on regarde dans le détail, il y a beaucoup de Roms qui ont été expulsés en bus avec les fameux 200 ou 300
des Roms.
Les Romains Michel,
comme on dit.
Romains Michel, Gérard.
C'est ça l'origine, l'origine du terme.
En fait, vous en voulez à Éric Besson parce que c'est vous qui vouliez le ministère de l'immigration.
Et puis la Roumanie fait partie de l'Europe.
Et la Roumanie fait partie de l'Europe, donc ces gens peuvent parfaitement
donc revenir. Ils peuvent tout à fait rester en France aussi. Voilà, donc c'est pas ça. Les reconduites à la frontière, c'était surtout des personnes qui arrivaient d'Afrique. C'était pas des Européens. Les Européens ont tout à fait le droit de rester en Europe.
Non, mais ce qui est quand même terrible dans cette histoire, on peut le dire, c'est comptabiliser comme ça, comme un exploit, des gens dont on sait que la plupart, même s'ils ont enfreint la loi française, sont quand même des gens à la fois courageux et malheureux, parce que je trouve qu'ils font un courage incroyable pour du fin fond de l'Afrique arriver jusqu'à nous, qu'on ne traite de ces personnes-là qu'en termes de nombre, comme ça, je trouve ça terrible. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants. C'est pour ça que chaque fois, effectivement, qu'à côté de vous...
Mais c'est pour ça que c'est courageux de la part d'Éric Besson d'avoir quitté son territoire pour aller sur un autre.
C'est ça.
Franchement.
Oui.
Justement, à propos du président de la République, lors de ses vœux le 7 janvier, il a déclaré « J'ai été parlementaire pendant 20 ans ». Vous savez, il était assez dur avec les parlementaires, c'était ses vœux aux députés et aux sénateurs, et il leur disait qu'il fallait qu'ils travaillent plus, qu'ils ne bossaient pas assez au Parlement. Et lui, quand même, je sais de quoi je parle, j'ai été parlementaire pendant 20 ans. Alors évidemment, toute la presse a vérifié, Nicolas Sarkozy n'a jamais été parlementaire pendant 20 ans. Au total, il a été député 11 ans et 11 mois. Il a donc menti à l'ensemble des parlementaires devant lequel il était.
Il a arrondi.
Regarde le Marseillais, lui.
Il a arrondi.
Tu trouves ça normal, le
11 ans, il a dit 20. Ça va, tout le monde le fait. Il a bien dit à une époque qu'il mesure 1m85.
Et alors, surtout, il aura reproché aux parlementaires de ne pas avoir assez travaillé, qu'il fallait qu'ils soient plus sur le coup. Alors là, évidemment, la presse, et particulièrement le Parisien, ce matin, sous la plume de Nathalie Segone, s'est amusé un petit peu à faire des recherches sur la période. Évidemment, de Nicolas Sarkozy, député.
Alors
et alors, en fait, ils ont mesuré la totalité de ses interventions. Quand il a parlé à l'Assemblée, en fait, il a parlé au total moins d'une heure en 12 ans de vie parlementaire.
C'est horrible.
C'est pas vrai.
Et on nous dit que malgré ça, il a eu le culot le 18 octobre 95, quand il était député, de dénoncer dans l'hémicycle les travées vides lorsque des sujets très importants sont évoqués. Il est quand même exceptionnel.
Il se réservait, ses forces pour ce métier qu'il voulait absolument occuper, c'est-à-dire président de la République. C'est pour ça. Maintenant, il est dynamique.
Parce que là, il bosse.
Ah ben là, il bosse.
Regarde Bouvard, quand il était chroniqueur ici, il foutait rien. Parce que
Nicolas Sarkozy était un député discret. C'est le titre du Parisien aujourd'hui. Le président de la République qui souhaite, vous l'avez vu, ouvrir un nouveau musée de l'histoire de France.
Oui.
Et ça, c'est plutôt bien quand même. D'accord, Gérard.
Mais tout à fait.
On ne sait pas où le mettre, en revanche, ce musée.
Il a dit dans un lieu qui serait quand même un lieu important, c'est pas, on va pas, j'ai cru comprendre qu'on
en France.
Oui, bien entendu, et qu'on réoccupait, qu'on occupait plutôt, qu'on allait pas construire. J'ai pas compris qu'on allait construire. Je croyais qu'on allait occuper un lieu déjà existant. Non, c'est pas ça que vous avez compris ça, vous-même.
Stevie pourrait être, parce que Stevie connaît les dates de l'histoire de France par cœur. Vous pourriez. Vous pourriez être guide 1515.
Marignan.
Vous voyez?
Bon, enfin, celle-là, à chaque fois.
Attention,
plus. Pas plus simple que cette
attention,
date.
Plus dur. 1789.
1789. À 14 juillet, peut-être.
1431.
1431.
Naissance de Claude Sarraute.
Oh.
C'est pas ça?
Alors, en 1431. Oh là là. Non, Jeanne d'Arc, évidemment. Brûlée sur la place.
Vendôme.
Alors.
Non, mais c'est vrai, l'histoire de France, c'est chouette que l'histoire de France est un musée, quand même.
Ah,
alors,
génial.
Qu'est-ce qu'on va y voir dans ce musée?
Astérix et Obélix, non?
Ouais. Chaque président de la République a manifestement voulu marquer l'histoire par un musée. Pompidou, Giscard d'Estaing.
C'est quoi le musée de Giscard?
Salon de l'érotisme.
Bah quand même. Ah, vous, le musée d'Orsay, Orsay, c'est Giscard d'Estaing. Orsay. Chaque président, Chirac, c'est quand même ce très beau musée sur le quai Branly. Non, chacun a voulu marquer un peu ça.
C'est pas Chirac qui a fait aussi la maison de la culture du Japon à Paris?
Non, il a fait le salon de la bière.
Christine, je signale aux auditeurs que si vous n'entendez pas Christine Bravo depuis un moment, c'est parce qu'elle mange des biscuits.
Non, je viens d'en prendre un demi pour mettre un peu de sucre.
Mettre
non,
un peu de sucre où?
Dans la machine.
Dans la machine.
Ouais. Videz votre bouche, reprenez-en un et on se retrouve après le flash.
Laurent Ruquier.
On va se gêner, deuxième heure, toujours avec Christine Bravo, Gérard Miller, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Titoff. Et deux auditeurs de plus, Valérie et Olivier, pour le deuxième challenge de la journée. Peut-être faites-vous partie, Olivier et Valérie, de ces auditeurs qui nous ont rejoints seulement depuis quelques mois, puisque merci encore à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure de l'émission. Vous êtes de plus en plus nombreux et évidemment, nous en sommes très reconnaissants. Est-ce que c'est votre cas, Valérie? Il y a longtemps que vous nous écoutez?
Très très longtemps.
Olivier, lui, habite Dunkerque. Et vous, alors, ça fait longtemps que vous faites partie de nos auditeurs, Olivier?
Oui, bien sûr, moi j'écoute Europe 1 depuis assez régulièrement, et vous particulièrement, quoi.
Qu'est-ce que vous faites à Dunkerque, Olivier?
Bah écoutez, je suis éducateur, dans un foyer de jeunes placés.
Un peu comme moi ici.
Voilà.
Dans le Nord.
Valérie, je vous ai pas demandé, vous, à Vidauban, dans le Var, d'abord c'est où Vidauban?
Vidauban, c'est à 35 km de Saint-Tropez, en centre Var.
Qu'est-ce que vous faites à Vidauban?
Eh ben, je suis propriétaire d'un camping.
Oh!
Le camping de Vidauban.
Ouais.
C'est super.
Vous êtes proche de la mer?
Non, on est à 30 km de la mer.
Mais ça, vous ne mettez pas sur le prospectus, hein.
camping, les pieds dans l'eau. 5 minutes à pied.
Combien il y a de places dans le camping?
Il y a 130 places. Ah. C'est un petit camping.
Un petit camping. Oui. Bon, mais là, il y a moins de monde en ce moment, évidemment.
Ah, en ce moment, oui, mais on en profite pour faire des travaux, pour aménager. On commence les réservations, puis on a hâte que les clients arrivent. Voilà.
Ça coûte combien une nuit en camping?
Alors, je fais pas de location d'emplacement nu pour les tentes et les caravanes, puisque maintenant, je fais que de la location de mobilhome.
Ah, parce... que du mobilhome?
Ouais.
Et ça coûte combien?
Alors, pour une semaine en plein été, il faut compter 650 euros.
Nous, on serait 130, on vit de mendicité essentiellement.
C'est possible. Il est bête. Valérie contre Olivier. Attention, ça va être une question cinéma que je vais vous poser. Enfin, cinéma. Une question people, on va dire. People et cinéma. C'est un sujet que vous maîtrisez, Olivier?
Oui, bien sûr.
Oh, ça a l'air. Et vous, Valérie?
Non, je suis pas très people, mais bon.
Bah, quand même, Clint Eastwood, ça vous dit quelque chose?
Oui, ça va, ouais.
Bon. Eh ben, il y a une rumeur sur Internet que Clint Eastwood a dû démentir. Quelle rumeur circulait sur Clint Eastwood qu'il a dû démentir?
Qu'il était gay?
Non.
Concernant sa santé?
Qu'il était gay,
Clint Eastwood.
N'importe
je sais pas,
quoi.
Avec James Dean, j'en sais rien.
Attendez, j'entends Olivier qui dit quelque chose.
Clint Eastwood qui partirait à la retraite?
Non.
Concernant Barack Obama?
Non.
Ça concerne le cinéma ou la politique?
Ça concerne ni la politique, un peu le cinéma.
Ah, qu'il allait reprendre un rôle...
Inspecteur Harry.
Ah, qu'il allait jouer Tintin.
Non.
Qu'il était lui aussi scientologue.
Non. C'est une rumeur très curieuse, hein, qui s'est propagée ces derniers mois sur Internet. Évidemment, ça l'a fait marrer, d'ailleurs, Clint Eastwood.
Il a un seul testicule.
Ça l'a fait rire parce que c'est pas très grave, mais il l'a officiellement démenti quand même.
Qu'il est le père de l'enfant de Rachida Dati?
Non.
Mais voilà, je te l'ai dit, est-ce que ça concerne un enfant?
Un enfant, non.
Un homme célèbre dont il serait le père.
Qu'il est l'amant de.
Pas un homme célèbre dont il serait le père.
Une femme célèbre.
Non.
Le père d'Amanda Lear.
Le fils.
Le fils de.
Le fils de d'un ancien président américain.
Le fils illégitime de quelqu'un de célèbre.
Alors le fils de quelqu'un de célèbre, mais il faut trouver qui maintenant.
Abraham Lincoln.
Oh là.
Reagan.
John Ford.
Non, Reagan.
Il est né en quelle année? Il est né en 1930.
En 1930. Adolf Hitler.
Clint Eastwood, le fils d'Adolf Hitler.
Le fils de quelqu'un Wilson. Du cinéma.
Le fils de quelqu'un du cinéma.
Réfléchissez à qui il ressemble.
Charlie Chaplin.
Charlie, oui.
Ah, on se rapproche.
Ah, Laurel.
Laurel et Hardy. Le fils de Stan Laurel. Bonne réponse de Stevie. Comment vous avez trouvé ça,
l'inspecteur Hardy?
Comme ça.
Clint Eastwood serait le fils de Stan Laurel et pour la première fois, l'inspecteur Hardy a officiellement démenti pour l'inspecteur Hardy. Hein, mais c'est sans doute à cause de mes cheveux qui se dressent tout droit sur ma tête, a dit Clint Eastwood de façon amusante. Hélas, et Stan Laurel et Clint Eastwood vous ont fait perdre Valérie et Olivier.
Mais Laurel a démenti ou pas?
Il est resté muet.
Apparemment, il reviendrait dans l'inspecteur Hardy.
Exact.
Il vient de la faire, c'est un métier, on vous le rappelle souvent.
Ne tentez pas votre chance, ce n'est pas la peine.
Monsieur Eboué, toujours aussi rapide et aussi. Il dégaine aussi.
Il insiste.
Toi, t'es déjà mort trois fois, je le dis.
Olivier, on va vous laisser à Dunkerque. C'est chouette, Dunkerque, comme ville. Hein.
On vous y attend, monsieur Ruquier, pour le carnaval qui arrive là prochainement.
On fait les jalis.
Pourquoi mais... pour carnaval
Le déguisement de femme, très sympa.
Je me demande si je préfère pas aller au camping de Vidoban.
Avec grand plaisir.
Alors moi, il y a très longtemps, on m'avait, j'avais un bon promoteur qui m'avait calé une date de spectacle à Dunkerque. Et le jour du carnaval, pour la semaine du carnaval de Dunkerque. On est arrivé, il y avait tout le monde bourré. C'est une ville entière qui est des gens bourrés. D'ailleurs, il y en avait qui étaient déguisés dans la salle, parce que finalement, tu vois, c'est un bon souvenir. Hein. Et à la fin, ils avaient dansé. Alors, il faudrait retrouver. S'il y a un auditeur de Dunkerque qui peut me retrouver, ils avaient tout le monde s'était levé dans le resto et ils avaient dansé une danse. C'est comme là, on dirait la maca.
Le wou-chou-chou-chou.
Le wou-chou-chou-chou.
Qu'est-ce que c'est?
Et je danse wou-chou-chou. J'ai l'impression que c'était d'être dans la cinquième dimension. C'était...
Vous connaissez la chanson, Olivier?
Il y a que les... Oui.
Oui, il y a plusieurs sortes de chansons. Il y a des chansons traditionnalistes et puis bon, il y a des réécritures, il y a des chansons nouvelles.
Et c'est que ça donne quoi alors? Tu danses le wou-chou-chou-chou.
Et tu danses le wou-chou-chou-chou.
Hey.
Et tu danses le wou-chou-chou-chou. Et tu danses le wou-chou-chou-chou.
Ça donne envie, il y a une chorégraphie.
L'éducateur n'a plus être très crédible, je te le dis. Hein.
Et donc, d'ailleurs monsieur Eboué, je dois vous ramener à 22h au foyer.
Tu vois que ça vient le métier.
Celle-là, elle est validée.
Ah, elle est bonne.
On chante aussi au camping à Vidoban?
Oui, bien sûr, on chante tout l'été.
Ah, qu'est-ce que vous chantez à Vidoban?
Patrick Sébastien.
Non, pas du tout. C'est pas trop le genre de ma clientèle.
C'est pas un camping beauf.
Non.
Donc, vous, c'est pas des partouzeurs, quoi.
Non, pas vraiment.
Vous, c'est douille douce, hein, tropé.
Voilà.
Douille douce Saint-Tropez. Douille douce Saint-Tropez.
On a compris.
Ah bah ça va, c'est pas plus répétitif que le chouchouche. Franchement, on vous embrasse l'un et l'autre, Valérie et Olivier. Merci.
Merci.
On va gêner continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses acolytes.
Europe 1, on va gêner. La question sport.
Qui fait suer?
Les blues, vous connaissez les blues?
Oui,
les blues.
Le blues.
La blues.
Titoff, je me tourne vers vous.
Chelsea.
C'est effectivement les joueurs de Chelsea qui ont passé un mauvais moment cette semaine. D'ailleurs, je signale même que je devais recevoir le footballeur
Didier Drogba
samedi soir dont on n'est pas couché. Il m'a gentiment téléphoné d'ailleurs lui-même pour s'excuser hier après-midi, mais l'entraîneur a dit, puisque vous avez eu de mauvais résultats, hop, vous êtes tous mis au vert et on va bosser. Interdiction de sortie pour aller faire de la promo, par exemple, d'un bouquin pour Didier Drogba. Mais en tout cas, il a été très aimable d'appeler lui-même pour s'en excuser. Effectivement, ils ont pris une claque, les Blues, dimanche dernier à Manchester United. 3-0. Et la raison de leur triste prestation, peut-être, viendrait de ce qui s'est passé à l'hôtel. Que s'est-il passé à l'hôtel de très précis et assez original, je dois dire.
C'est la bouffe ?
La veille du match ?
Alors, c'est même le matin, non, même du match.
Ah, c'est le petit-déj. Il y avait un truc au petit-déj qui les a rendus malades.
Vers 7h du mat.
Pas d'eau.
Il y a eu un bruit particulier.
Alors, il y a eu un bruit particulier.
Ah, la sirène, la sirène incendie ou...
Alors, l'hôtel, l'alarme de l'hôtel voilà. S'est déclenchée.
Quelqu'un fumait, c'était dans les chambres.
Bravo.
C'est une, le
Bravo.
Détecteur de fumée.
Qui ? Alors, ma question.
Alors, un des joueurs fumait.
Pas un des joueurs.
L'entraîneur.
Non.
Le président.
Non.
Le
kiné. Une nana d'un des joueurs.
Un supporter de Manchester.
Non.
Une gonzesse qu'un joueur a ramené.
Voilà.
Une prostituée.
Une prostituée qui fumait.
Après l'amour, on fume toujours une cigarette. Hein.
Non. C'est
la
un cigare.
La femme d'un joueur.
Non.
C'est le cigare.
C'est la fumée du cigare de...
Du veilleur de nuit.
Non.
De quelqu'un dont le nom est connu.
Oui.
Mais Churchill. Qui n'a rien à voir avec le sport.
Ah, du patron de Manchester.
De Churchill.
Non, c'est le russe, là, le patron de Chelsea.
Non. C'est quelqu'un qui ne joue... Et qui ne travaille ni pour Chelsea, ni pour Manchester United.
Ah, il n'avait pas le droit de fumer.
Il venait pour superviser.
Et quelqu'un de la famille royale?
Quelqu'un de la télévision qui filmait le match?
Pour superviser un des joueurs.
Charles Villeneuve?
Non.
Ah, Domenech?
Non.
Un journaliste?
Non.
Un coach?
Un recruteur?
Un agent?
Coach. Est-ce que son nom est connu, par exemple, par moi?
Oui, Gérard.
Il est français?
Bon. Non.
Pour recruter un joueur dans une autre équipe?
Non, c'était pour, parce qu'il est, comme Domenech, il est...
Sélectionneur.
Il est sélectionneur. Donc évidemment, il vient voir.
Je connais un sélectionneur.
Le sélectionneur anglais?
Non.
Portugal?
Non.
Enfin, d'Argentine?
Ben oui. Maradona.
Ah, Maradona.
Maradona, la bonne réponse vient de ouais. Gérard Miller. Ouais.
Oh là 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 là.
Le cigare de Diego Maradona a déclenché
l'alarme
incendie de l'hôtel et Diego Maradona était là pour superviser un joueur argentin qui s'appelle...
Il aurait dû se contenter de la cocaïne, ça sent pas au moins.
Un joueur argentin qui s'appelle Carlos Tevez et qui joue avec Manchester United et c'est le boulot des sélectionneurs, c'est aussi d'aller voir leurs joueurs compatriotes quand ils jouent dans des autres clubs à l'étranger.
Il faut être idiot quand même avec un détecteur de fumée pour fumer le cigare qui est quand même...
7h du mat.
C'est le truc qui envoie le plus de fumée au monde, quand même.
Les Blues ont pris une claque et la raison de leur prestation est peut-être toute trouvée, écrivait la presse. Le matin même, ils ont passé près de 40 minutes dans le froid parce que vers 7h du matin, joueurs et staff ont été réveillés par l'alarme incendie de l'hôtel déclenchée par la fumée du cigare d'un certain Diego Maradona.
À 7h, fumer le cigare, oui,
mais il s'était pas couché. C'est pas, il se réveille pas pour fumer un cigare.
Ah ouais, mais à 7h, oh là là, la laine de phoque.
Ah, la laine de phoque.
Ça, on sait pas. Hein.
Ouais, enfin, oui, on sait pas. Mais...
On fait des beaux manteaux avec la laine de phoque.
J'ai jamais embrassé un phoque. Enfin, bon, je...
Mais non, mais fumer un cigare à 7h du matin, c'est épouvantable.
Enfin, un phoque n'a pas forcément mauvaise haleine. Qu'est-ce que
oui, enfin, c'est une expression, je sais pas, comme j'aurais pu dire.
On dit un fennec, on dit un chacal.
De bouc,
ah oui,
le phoque.
Phoque, ça pue quand même léger.
Schneck, fennec.
Ah oui, ça sent un peu le poisson quand même.
Ah non, le phoque,
c'est quand même assez dégueulasse.
Moi, j'ai connu des phoques très bien parfumés.
Ah ouais, d'accord.
Non, c'était une otarie.
Alors,
ça n'a rien à voir.
Ça fait propre un phoque, moi, je trouve.
Oui, non, mais je dis pas que c'est pas propre. Ça sent un peu.
T'as déjà caressé des phoques? Parce que
c'est doux.
T'as mais déjà non, mais... senti ta main?
Il habite dans le marais, alors je vais vous dire.
T'as déjà senti ta main?
Mais bien sûr, moi j'adore caresser les phoques. Il y a des zoos où les phoques
et
sont.
Et ça t'a pas dérangé ce que
non,
sentait ta main? Mais qu'est-ce que tu caresses
d'habitude? C'est tout doux.
Bah, c'est comme quand tu caresses une chatte, ça sent le poisson aussi.
Oh non, Gérard, je suis désolé, le ton de cette émission.
Oui, je suis
le ton. Hein.
Non, mais je me disais, comment ont-ils fait pour gagner 220 000 euros? Il n'y a pas de miracle.
Et moi qui ai dit à mon fiancé d'écouter.
Il s'est pété le genou,
c'est le bon Dieu qui l'a fait.
Et Dieu créa la musique.
Une
alors.
Vie de roukmout.
Il y a un bouquin à écrire.
Il y a un bouquin à écrire. Tu veux pas que j'écrive ta vie? Vis ta vie de roukmout.
De quoi?
Je vais y aller au Havre.
Mais je suis pas roukmout, enfin arrête.
Il est pas roukmout.
Il s'en fout de se faire traiter de pouille, de caillot, de tout ce que tu veux.
Alors,
mais il veut pas être roukmout.
Ben c'est vrai, enfin.
C'est il est pas roukmout.
Roukmout, c'est roux. Il est pas roux. T'as jamais été roux.
Pardon?
T'as jamais été roux.
Mais non, enfin, de toute façon.
Il se teint.
Ah non, il a des cheveux blancs.
Qui se teint.
D'abord, il y a des très jolies roues.
Puis... Oui, mais faut l'avouer.
Attends, lesquelles?
Puis les roues, ils sont.
Les roues sont particulièrement viriles, c'est ça?
Ah oui.
Et d'où ça sort ça encore?
Ah bah c'est plutôt connu.
Ah oui, le roux est viril. Ah ouais.
Qu'est-ce que c'est que ce tissu?
Il va être en air, un bazar monstrueux.
Mais d'où ça sort ça, le roux est viril?
Ah bah je sais pas, on me l'a toujours dit, et puis ça s'est confirmé par la suite.
Ok, regarde Franck de la personne comme il est viril.
Non, c'est vrai. Le roux est viril.
Il devait y avoir un rouquin dans le marais.
Non, c'est
avec
vrai.
Un gros bazar, et depuis, les roux, tu vois. Il y en a un, tu vois, dans le marais. C'est le même à chaque fois, quoi. Alors, je peux te dire que les roux, tu vois.
Non, le roux est viril, le blond est mou. Et le brun est assez rapide, comme ça. Non, je suis d'accord.
Donc, en fait, vous connaissez les phoques et les rouquins. Non, mais qui vous avez connu comme roux, sérieusement?
File-lui le numéro de téléphone, qu'on n'en parle plus.
Enfin, c'était à Londres.
Ah oui. Le prince arrive. Le prince arrive. C'est pas pareil.
C'est arrivé sur leur terre, c'est différent.
Sur leur terre,
c'est différent.
Effectivement, en Écosse,
il y a des roux. On l'appelait bien sûr Ginger. Voilà.
Ginger.
Ah oui, je m'en rappelle de ton roux.
Oui, non, ça c'est un autre.
Ah oui, t'en as eu deux. T'as eu deux roues.
Tu peux pas fermer ta gueule.
T'en rappelais pas de ce roux-là.
Donc, vous êtes monté sur deux roues.
Et Gérard, il est monté
sans selle, mais c'était sans selle.
Sans selle.
Vous êtes fada quand même.
Non, on dit au burn.
Francis Cabrel, il est un peu rouquin.
Ah bah, il est carrément rouquin. Oui.
Brice Hortefeux, il est roux.
C'est pour ça qu'il aime pas les noirs. Brice Hortefeux, c'est la concurrence.
À 18h, c'est Europe 1 Soir présenté par Marie Drucker. Et la question d'Europe 1 Soir aujourd'hui, êtes-vous optimiste quant à l'issue de la crise financière? Pour en débattre avec vous, Jean-Marie Messier sera en studio et c'est l'ancien président de Vivendi Universal. Face à lui, Axel de Tarlet, journaliste bien connu à Europe 1. N'hésitez pas évidemment à témoigner, à donner votre avis au 01 42 32 14 14. Et puis vers 19h20, vous le savez, c'est votre Europe 1 Soir rien qu'à vous, où vous réagissez à toute l'actualité. Je vous rappelle le standard. 01 42 32 14 14 et europe1.fr. Mais tout de suite, c'est Laurent Ruquier.
Europe 1, on va se gêner.
Dorémy Fassi, Liado.
Bonjour Serge.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Salut Serge.
Salut Serge.
Avant de passer tout de suite au jeu du pouet-pouet, j'aimerais revenir, car cette émission a un certain niveau, il faut le dire.
C'est sûr.
Avant de passer au jeu du pouet-pouet, j'aimerais revenir sur votre liste d'anniversaire d'hier, puisque vous avez commis une grave erreur, Jean-Louis.
On peut la deviner.
Jean-Louis me signale, et c'est un scandale, il s'insurge même, notre auditeur Jean-Louis, contre vous, que lors du blind test d'hier, vous avez fait passer Lio pour Elie Medeiros, car il s'agissait bien, d'une chanson d'Elie Medeiros, mais la version que vous avez proposée hier était une réinterpretation par Lio.
Donc on avait
bon.
Ça prouve qu'il y a la gueule d'oreille, c'est bien, moi j'avais même pas remarqué.
Comment a-t-il pu faire cette erreur, lui, un professionnel que je considérais comme un dieu vivant sur terre de la connaissance musicale? Mon cœur est déception et colère, car mon héros m'a déçu.
T'as vraiment une oreille de phoque, hein, Serge.
Qu'il soit brûlé en place publique, torturé des tympans, ou que son salaire mirobolant au passage soit diminué de moitié, me dit Jean-Louis.
Bon, bah, écoutez, c'est bien. En même temps, il y a quelques compliments à la clé, ça fait plaisir.
Revenons à notre jeu du pouet-pouet. Un mot à trouver, qui se cache derrière pouet-pouet. Gérard.
Ouais.
À vous de retrouver ce mot, évidemment. Mot que vous allez entendre dans les 11 chansons. Enfin, quand je dis que vous allez l'entendre, justement, vous n'allez pas l'entendre. Mais à vous de le retrouver. Derrière le pouet-pouet.
Marie-Dominique, je n'étais qu'un cabot. Mais je me rappelle ton nom, Marie-Dominique.
Alors le pouet-pouet s'arrête, sa dernière tâche est faite.
Oh, suprême pouet-pouet. Plein d'estrideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges.
Depuis une longue semaine, la mort en prend chaque matin. La soif et la fièvre dessèchent les lèvres à tous les appels de pouet-pouet.
Déjà, au fond du square, on entend le pouet-pouet. Le jardin va fermer.
Pouet-pouet. Il faut les rassembler.
c'est le moment de bien donner. La marche en avant, la marche en avant.
Le tambour n'a jamais fait de musique. Le tambour n'a jamais parlé d'amour.
Agathe se souvient, sourit mélancolique. Il lui tonne la main devant le grand portique. À l'appel du son amour l'a quitté.
C'était les manœuvres de printemps qui commençaient. Drapeau flottant, marche forcée comme annoncé à grand coup de.
Et le pet pet est bouché.
Ça y est, je l'ai débouché.
Bravo César.
Oui, mais j'ai fait péter les bretelles.
Tous les dimanches à l'heure des tièdes érections. C'est l'air de la Lali qui lui sort du pauvre con.
Quel mot se cache derrière le pouet-pouet de Serge Liadeau?
Facile.
Attendez, si vous savez, oui, Gérard, pensez en éditorien. Stevie, non?
Ah non, c'est super dur.
Titoff?
Je le sais, mais je préfère pas le dire.
Christine?
Oui, bah oui.
Jérémy?
Non.
Joujou n'a pas trouvé.
On est dans une sémantique martiale, bien entendu.
Boubounet, voilà, il a trouvé, Boubounet?
Oui, il a trouvé.
Ouais, Gérard, je t'en prie.
Le clairon.
Le ouais. Clairon, ouais, ouais. Bonne réponse. Bravo, oui. Gérard Miller.
Il devait connaître un des poèmes, Gérard.
Ah oui, oui.
Moi, j'avais la trompette qui marchait aussi, hein, de toute façon.
Oui, mais ça rimait pas.
Ça rimait pas, oui.
Le clairon rime mieux avec, avec nation, avec légion, par exemple. N'est pas un clairon dont vous pourriez nous jouer, là, Serge?
Non, même en soufflant dans ma guitare, ça m'étonnerait que je prenne des sons de cuivre.
Comment tu t'es dit, Serge, que le mot mystère, ça allait être le clairon?
Moi, ce que j'aimerais, c'est que Serge, un jour, derrière le mot pouette-pouette, mettre le mot pouet-pouet.
Ouais. Ben, et justement, et j'ai cherché, mais il y a très peu de chansons qui comprennent le
aussi,
mot pouet-pouet.
Elle me
à
fait
part celle de.
Pouet-pouet.
Voilà, ben c'est la seule. Mais bon, écoutez, sans vous prévenir, je vais chercher, oui. D'accord.
Alors, ça on serait va chercher. Bien. Ou poète, peut-être.
Comment tu fais pour préparer ce jeu? Comment tu fais pour préparer
ce jeu? Écoute, je cherche des expressions équivoques, et là, j'avais envie d'une chanson qui dise souffler dans mon quelque chose, tu vois.
T'avais envie de ça, ouais.
Et oui, oui.
C'était deux coups comme ça, quoi.
C'était pour induire Christine Bravo en erreur. Je suis sûr qu'elle aurait dit un mot rigolo. J'ai pris.
On leur dit que c'est toi, mon amant.
Qu'est-ce qu'était Allo Espagnol?
C'est pas possible.
Que quoi?
Il est marié. Il est.
Oui, il est pas, marié.
Il est pédé.
Écoute, c'est honnêtement, viril. Vu le rire,
non,
je pense que.
Non,
je suis de la paroisse.
Je suis roux. Dessous les bras.
Revenons sur les déclarations de Nicolas Sarkozy qui avait comparé son prédécesseur à un roi feignant, allusion directe au président Chirac, au point même qu'Alain Juppé, d'ailleurs sur son blog cette semaine, le maire de Bordeaux, a répondu au président Sarkozy, indirectement, hein, mais il écrit sur son blog, Alain Juppé, « Quel que soit le niveau de responsabilité, on ne peut parfois résister à la tentation d'un bon mot, même quand il est injuste, inélégant et surtout inutile. » Et paf, ça c'est pour le président. Et évidemment, d'autres députés socialistes, ceux-là, se sont amusés, on en a parlé tout à l'heure, à rechercher dans la carrière de parlementaire de Nicolas Sarkozy, si lui avait été un gros travailleur à l'Assemblée. Et effectivement, certains ont dit, bah, il y a eu peut-être eu des présidents feignants, mais il y a eu aussi des parlementaires feignants. C'est l'objet de votre chanson.
S'adressant aux parlementaires lors de ses vœux la semaine dernière, notre ineffable président, aux députés et sénateurs, a fait un portrait peu flatteur de l'un de ses prédécesseurs, qu'il comparait au roi feignant en traitant perfidement les autres de feignants. Il veut faire croire sûrement que lui bosse tout le temps, lui qui affirme maintenant avoir été pendant 20 ans le député des Hauts-de-Seine, l'a été en réalité seulement 12 ans et si discret qu'il ne s'y est guère illustré, parlant en tout une heure à peine, être payé à plein temps pour parler si rarement, ça prouve assurément que son silence est d'argent. Le feignant, répondent les députés, c'est sûrement, celui qui dit qui est.
Et puis c'est tout.
Belle chute, merci Serge, à demain.
Merci.
Et c'est la suite d'Onze à gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ses acolytes.
Dans un instant, au téléphone, nous aurons monsieur François Dussault, qui est un ancien propriétaire assez malheureux parce qu'il a fait un état des lieux de l'ancienne propriété qu'il possédait et il y en aurait quand même pour plusieurs milliers d'euros, voire même centaines de milliers d'euros, non seulement de dégâts, mais de vols. Quelle est la propriété qui a appartenu à monsieur François Dussault?
C'est un château.
Un château.
Occupé par Chambord. Un homme politique?
Non.
Par un chanteur?
Non.
En France. Ah, la Starac.
Le château de Damary-les-Lys de la Starac. Bonne réponse de Titoff.
T'es fort, toi.
Bonjour, monsieur Dussault.
Bonjour, monsieur.
Vous n'êtes plus propriétaire du château?
Je ne suis plus propriétaire depuis le mois d'avril, mais une petite précision, je n'étais pas propriétaire à titre personnel, c'est la société dont je suis le dirigeant qui l'était.
Ah, très bien. Mais alors, comment vous avez vu depuis, si vous n'êtes plus propriétaire, qu'il y a eu des dégâts dans le château?
Mais écoutez, parce que j'ai gardé avec l'acquéreur de très bons rapports, et donc j'ai été amené à m'y rendre à plusieurs reprises ces dernières semaines, notamment pour tenter de récupérer le mobilier que j'avais laissé à la disposition de Star Academy et qui, à ce jour, ne m'a pas été restitué.
Combien ça a rapporté la location de ce château? Excusez-moi, j'ai quand même le sentiment que ça a rapporté beaucoup d'argent.
Non, pas vraiment. C'était quelque chose qui était très en rapport avec l'importance de la propriété, quelques 4500 mètres carrés. Le prix de la location était très inférieur au mètre carré à celui d'un HLM.
Mais les meubles ont été mis chez un garde-meuble. Vous avez accepté que tout soit redécoré?
Pas du tout. Les meubles ont été laissés à la disposition de l'émission du producteur, qui a sa seule volonté. Soit l'entreposait dans les remises, soit l'utilisait dans son décor.
Parce que j'ai été dîner chez Nikos récemment, il y a plein de nouveaux meubles chez lui.
Est-ce que vous n'avez pas retrouvé en faisant l'état des lieux, je sais pas...
Michel, par exemple.
Voilà, un ou deux chanteurs abandonnés, Michel dans un coin, Magali Valé dans un autre.
Nous n'avons pas été conviés à un état des lieux.
Mais ils ont vraiment tout salopé.
Ah, c'est effectivement affligeant parce que la dépose des décors, voilà, on a vu apparaître, ce qui n'était pas très visible avant, bien l'importance des dommages causés aux existants.
En même temps, c'est un peu normal, il y a eu combien de Starac depuis le début?
8, 9
Il y en a eu.
Ils ont dû en faire 7 dans le château.
7, effectivement.
Au bout de 7 ans, qu'est-ce que vous voulez faire?
Non, mais il y avait quand même des accords extrêmement précis et qui ont été, dont je pensais qu'ils seraient scrupuleusement respectés, notamment vis-à-vis de mon acquéreur.
Si vous aviez vu l'Elysée après un septennat et un quinquennat de Chirac,
non, le bordel.
Écoutez, moi, ça fait 20 ans que je loue ma maison à déchiffrer des lettres. C'est nickel, il n'y a absolument aucun dégât. Non, ça dépend des émissions. Hein.
C'est évident qu'ils allaient tout modifier là-dedans, je veux dire.
Ah, mais c'était tout à fait, j'en étais d'accord. Dès lors que j'avais un engagement qui était précis, qui consistait à remettre en l'état initial les lieux.
Écoutez, on est déçus et tristes pour vous, évidemment, mais...
Pas pour moi, puisque je ne suis ni juridiquement ni financièrement concerné.
Et si vous dites que vous aviez des meubles à vous, quand même?
Actuellement, je tente de les récupérer.
Quel genre, par exemple?
Il y avait des tableaux, des lustres, des meubles anciens.
La plupart des Star Académiciens sont à RMI aujourd'hui. S'ils peuvent en revendre un ou deux, ça pourra peut-être les aider.
Mais ça, c'est une leçon. Le type qui a loué l'île de la Tentation, il paraît qu'après, il y avait des taches partout. Il savait pas quoi faire.
On vous remercie, monsieur François Dussault.
Mais je vous en prie.
Pour ce témoignage au sein du château de Damary-les-Lys. Important témoignage, faut même le dire.
J'ai bien aimé Gérard qui essaye de se raccrocher au côté vulgaire de l'émission.
Ouais, c'est ça.
Je me lance dans le cul, ça y est.
Prêt à tout, Gérard.
Merci, Éboué, de me soutenir dans cette tentative.
Merci, c'est monsieur Dussault, en tout cas. Je voudrais vous parler d'une maternité qui est assez spéciale. C'est Libé qui nous en parle aujourd'hui. C'est à Yunlin, au centre de Taïwan, qu'on trouve cette maternité très originale. Pourquoi est-elle originale?
Elle est en plein air?
Non.
Elle est pour les adultes?
Non.
On accouche dans une piscine?
Pour non. Des êtres humains?
Oui, c'est une maternité pour
des bébés.
Pour des bébés.
Elle est sur l'eau?
Ça peu importe, non, là, il est normal.
C'est le moins de toit de verre pour regarder la pleine lune? Oui, les femmes, elles accouchent beaucoup plus, c'est un sort de pleine lune. Alors que la nouvelle lune, c'est l'inverse.
C'est par rapport à la marée.
La lune, oui, elle a à voir avec la marée, mais pas les naissances.
Si, parce que le fait que les eaux tombent, c'est le fait de la marée, ça fonctionne exactement de la même manière.
Tu as trop écouté le grand sorcier de ton village, Fabrice.
Qu'est-ce que c'est raciste, c'est scandaleux.
Alors bon, dites, j'en fais quoi de ma maternité?
C'est lié à l'accouchement. Ou est-ce qu'il se passe dans les jours suivant l'accouchement?
Ça se passe avant l'accouchement, pendant l'accouchement, après l'accouchement.
Il y a une salle de jeu.
C'est toute la maternité.
C'est pour des enfants particuliers.
Ah, c'est Cheb Mamie qui fait les accouchements.
Oh non. Oh. Avec son aiguille à tricoter.
Il y a de la musique.
Oh oui, de la musique de Cheb Mamie.
Non, mais des enfants.
Ah bah oui, ça oui.
Non, mais il y a des enfants qui toute la famille peut assister à l'accouchement.
Non, non, non.
C'est une maternité pour milliardaires.
C'est plus dans la déco de la maternité.
Dans la déco.
Ah,
tout est rose.
C'est décoré avec les meubles de la Starac.
Ah, c'est vrai que c'est assez rose quand même. Hein.
Ah, c'est que en sucre. C'est une maternité.
Ça évoque le ventre.
Écoute tes fantasmes, Stevie. Ça
maternité en sucre.
Les enfants diabétiques. Ouais, c'est rose.
Ça évoque un lieu particulier.
Non, non.
Le décor évoque, je ne sais pas, le ventre maternel.
Non, c'est peut-être une marque.
Non, mais le papier peint, les uniformes. Forme du personnel, les lits, les tototes, les couches.
C'est Hello Kitty.
Tout est Hello Kitty. Ah, bonne réponse de Gérard Miller.
Eh ben forcément.
Hello Kitty, la petite chatte préférée des petites filles.
Voilà, la petite chatte Hello Kitty. Et c'est une maternité, la première maternité Hello Kitty.
Oh, c'est drôle.
C'est un carton. Hein.
Ah oui, c'est un carton, mais c'est
rush en plus. Hein.
Quoi?
C'est rush, tu peux pas comprendre.
Ah, c'est cher.
Tu sors pas avec un mec de 30 ans.
Tu sors pas avec un mec de 30 ans, t'es pas habillé en kilt comme Britney Spears, tu peux pas comprendre.
C'est rush.
C'est cher.
C'est cher.
Ouais,
c'est cher. Mais au Japon, t'as des boutiques entières de Hello Kitty, c'est impressionnant.
J'ai vu ça au Ponja.
Sur les cuillères, les tasses.
J'ai vu ça au Ponja. Le pays du soleil, vend-le.
Tu peux pas comprendre.
Justement, tiens, je vais vous parler d'un jeune acteur de 21 ans. Il s'appelle Joshua Bowman. Et Joshua Bowman a du boulot, hein, mon ami. Dans les mois qui viennent. Pour quelle raison a-t-il du boulot?
Il joue un personnage qui va faire
une
série.
On espère qu'il ne joue pas un personnage. C'est un acteur américain de toute façon, jeune acteur, peut-être même britannique plutôt qu'américain. Il a du pain sur la planche.
Ah, il va remplacer quelqu'un.
En quelque sorte, il remplace quelqu'un.
Quelqu'un qui est mort?
Non, non, non.
Une voix simplement ou un personnage?
Non, non.
C'est le nouveau mari de quelqu'un, le nouveau fiancé de quelqu'un.
Le nouveau fiancé
voilà,
de quelqu'un.
Amy Winehouse.
D'Amy Winehouse. Non. Bonne réponse. Il va avoir du boulot quand même.
Pourquoi?
Amy Winehouse,
faut l'emmener à la clinique, aller lui acheter de l'héroïne. Enfin, genre, ça prend du temps quand même dans ta journée. Mais...
Et d'ailleurs, effectivement, Blake Fielder Civil, qui est son mari à Amy Winehouse, a mandaté Maître Henry Brandman pour engager un processus de demande de divorce pour adultère. Le mari d'Amy Winehouse a été condamné, vous le savez, à 27 mois de prison pour avoir frappé le patron d'un bar. Et là maintenant, il voudrait à peu près 6 millions d'euros, la moitié de la fortune d'Amy Winehouse, parce qu'elle le trompe donc avec ce jeune acteur de 21 ans, Joshua Bowman. Et elle dit à propos de ce jeune acteur, « Quand je suis avec Josh, je n'ai pas besoin de drogue pour me sentir, parce qu'il me rend heureux. »
On n'a jamais des histoires comme ça en France.
Pour me sentir bien, pardon. Voilà.
Il manque un mot, ouais.
Là, si tu veux, avec le mot manquant, on comprenait pas la phrase.
Il aurait fallu mettre poète-poète, quoi, à la place.
Europe 1, on va se gêner. La question, 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons.
24 secondes, je regarde mon chrono. Attention, ce candidat de 18 ans à qui veut gagner des millions est accusé de tricherie. Au final, ça a donné quoi?
Un film.
Bonne réponse de Stevie et Jérémy Michalak. Vous voyez, c'était facile quand même.
Il paraît, Gérard, oui, mais moi,
il paraît même
toujours.
Que c'est un super film, Slumdog Millionnaire. Vous l'avez vu, non?
De Danny Boyle.
Non.
Film de Danny Boyle qui avait fait Trainspotting.
Ça donne envie, en tout cas.
Ah oui. Alors l'histoire, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu le résumé de ce film, c'est Jamal Malik à 18 ans, orphelin, misérable, presque ignorant même, et qui effectivement se présente à qui veut gagner des millions et qui est en passe de gagner 20 millions de roupies dans la version télévisée indienne.
Ça fait 3 francs.
Ça fait 12 euros.
Euros.
Persuadé qu'il a triché, les producteurs du jeu le font arrêter par la police. Il est interrogé, il est torturé. Et le jeune homme justifie chacune de ses bonnes réponses par le récit d'un épisode de sa courte et triste vie. Et il paraît que c'est un film fantastique, quoi, fabuleux. Effectivement, Danny Boyle est un réalisateur assez intéressant. Il y a 3 garçons qu'il a fallu engager pour jouer le candidat, parce qu'évidemment, on voit le candidat quand il a 17 ou 18 ans. Mais comme il justifie chacune de ses réponses par un pan de sa vie, il y a des flashbacks.
Il y a Dorasso dedans, non?
Et il a fallu... Non, ils auraient pu engager Vikash.
Qui est-ce qui joue Jean-Pierre Foucault, du coup?
Alors, j'imagine qu'il y a un Jean-Pierre Foucault indien.
Très bien, moi je l'ai vu dans la bande-annonce. Et il est très drôle, le Jean-Pierre Foucault local. Oui, oui.
Vous voyez que Jean-Pierre Foucault, on le voit maintenant dans de la pub. L'autre jour, j'ai cru qu'il y avait voiture. Qui veut gagner des millions sur France 2.
C'est qui veut gagner des voitures.
Qui veut gagner pour
ils sont chelous les pubs en ce moment aussi avec le
très bizarre.
Qu'est-ce qu'il y a comme pub?
Il y a une pub pour un téléphone, je crois que c'est Neuf. Je sais pas si tu l'as vu, Jérémy.
C'est un nouvel opérateur, non, c'est pas ça?
Ouais, ouais, c'est
Signaux.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est?
C'est quelqu'un qui est trisomie et qui a le chromosome 21. Et ça dure comme 21. Ça pendant 3 minutes.
Je veux dire, tout le monde a le chromosome 21.
Le problème, c'est qu'il y en a un de plus.
Oui, enfin, c'est ça, le problème. Enfin, on a 21 chromosomes. Oui.
C'est quelqu'un qui a le chromosome.
Enfin bref. Mais la pub, elle est horrible, quoi. Mais c'est horrible. Mais
on en a parlé hier dans cette émission.
C'est l'acteur du 8e jour.
Pascal Duquesne, il y a une polémique là-dessus. Effectivement, certains trouvent ça très bien parce que c'est l'intégration.
L'intégration, évidemment.
D'autres sont choqués.
Mais moi, ce qui me choque, c'est que les trisomiques aient droit à des téléphones moins chers que nous.
Mais non, c'est les mêmes prix.
Non.
Justement, c'est ça l'idée de la pub.
Alors, vous êtes aussi con que Claude Sarraute, hein. En tout cas, revenons à Slumdog Millionnaire, parce que c'est un film qu'il faut aller voir. Vous êtes d'accord, Gérard?
Ah oui, tout à fait.
Qui veut gagner des millions? Vous avez fait déjà, vous, qui veut gagner des millions?
Jamais.
Vous avez jamais joué? Non, Stevie?
Je suis jamais invité sur TF1, moi. Je sais pas pourquoi.
Oui, c'est bizarre, tiens.
Faut pas y aller, ils nous font perdre quand on vient de France 2.
Je vous signale d'ailleurs qu'on est bientôt invités sur TF1 tous pour faire le grand concours des animateurs.
C'est pas vrai.
Pourquoi tous? Tous parce qu'ils ont demandé à ce que ce soit toute l'équipe de la radio qui vienne, en fait, voilà.
Je fais réfléchir.
Ça sent un peu la connerie, ces histoires.
Ah non, mais je suis sûr que c'est vrai. C'est sans deck, oui. C'est-à-dire que comme il y a eu le grand concours des animateurs spécial Grosse Tête, comme il y a eu le grand concours il y aura un grand concours des animateurs spécial, ce qu'ils appellent bande à Ruquier, voilà, avec Gérard. Peut-être vous serez invité sur TF1 pour la première fois.
Super, c'est payé combien? Je devance Christine sur la question.
De toute façon, sinon, ça sera sans moi.
On verra donc pas Christine Bravo et Pierre Bénichoux.
Pierre Bénichoux non plus.
Moi, j'ai le souvenir, je corrige, j'ai été une fois invité sur TF1 dans une émission de Daniela Lombroso, une émission plutôt d'humour, et je vous assure que c'est vrai, tout ce que j'ai dit, mais sans exception, y compris bonjour et au revoir, a été coupé. On me voit, et les gens me disent, mais tu n'as pas du tout parlé, qu'est-ce qui s'est passé?
T'étais malade ce jour-là.
Tout ce que j'ai dit était coupé, c'était, je suppose que mon humour ne collait pas.
Mais donc, ça aussi, hein, ça sera.
J'attendais.
Calogero, il est toujours en apesanteur, faut que quelqu'un le décroche. Le DVD de la semaine maintenant avec Kung Fu Panda, visuellement époustouflant, titré Studio Magazine. Le DVD, vous le savez, est enfin sorti. Vous pouvez le louer, vous pouvez l'acheter, Kung Fu Panda. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous conseillez à nos auditeurs? Christine, Stevie, Gérard, vous l'avez regardé pour nous. Je commence par Christine, peut-être.
Alors, écoute, j'avais très très envie de le regarder parce que j'avais vu sur Internet 600 millions de dollars de recettes. Et surtout, il avait été nommé aux Golden Globes. Et en fait, il n'a pas été nommé, c'est WALL-E, le robot qui est arrivé premier au Golden. Mais c'est vrai qu'ils avaient fait une grosse promo avec la voix de Stan Hoffman.
Chez nous, c'est Manu Payet qui faisait.
Ouais. Et donc, j'ai passé d'ailleurs le film à essayer de reconnaître les voix. J'ai reconnu la voix de Pierre Arditi, mais j'ai pas reconnu celle de Manu. J'ai été regarder après sur Internet. Eh ben, écoute, je suis vachement déçue. Parce que...
C'est pas vrai.
Si. Alors, moi, je vais vous expliquer.
Moi, j'ai pas aimé ça du tout.
Non. Alors, voilà, je vous explique. Quand tu vois Pixar, quand tu vois ou DreamWorks, là, je sais pas quoi. Quand tu vois des films Shrek, voilà. Quand tu vois même L'Âge de Glace, où il y a une réflexion, où il y a des dialogues, où c'est drôle. Là, c'est d'une platitude au niveau des dialogues, mais nul, misérable. J'étais avec ma fille et on se regardait, on ricanait sur la pauvreté des dialogues. Alors après, les personnages, j'y trouve pas attachants. Je veux dire, pourtant, un panda, c'est difficile de pas aimer un panda parce que c'est vraiment...
Elle a raison.
Écoute, franchement, tu vois...
Ça peut être la phrase du jour. C'est difficile de pas aimer un panda.
C'est comme un pendu, d'ailleurs.
Tu vois, il y a deux animaux irrésistibles, c'est le koala et le panda, donc tu les mets n'importe où, tu fonds. Celui-là, il a des dents, c'est, quand il sourit, il a l'air con.
Enfin, il fait du kung-fu, hein.
Écoute, alors, je l'ai pas aimé, je l'ai pas trouvé sympa, la panthère, je m'en fous.
Vous êtes vraiment l'anti-Chantal Goya, vous. Hein.
Ah non, mais attends, et en plus, le kung-fu, ça me gave.
Pas de kung-fu panda pour Christine Bravo. Stevie?
Je l'ai regardé. Hein.
Ben moi, j'ai regardé, bon, ça se regarde quand même, c'est un dessin animé, mais bon, moi je regrette vraiment l'époque des dessins animés, Blanche-Neige et les Sept Nains, Bambi, c'est marrant. Mais non, mais c'est con, mais c'était des super bons dessins animés.
Non, mais même Madagascar, Madagascar était génial.
Non, mais même les anciens dessins animés, Peter Pan et tout, c'était des dessins animés qui étaient super bien. On n'est même plus capable de refaire des dessins animés pareils.
Ah si, mais dis pas de conneries, l'âge de glace.
Anastasia qui était un peu bien, mais bon.
Mais l'âge de glace.
L'âge de glace. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est plus des dessins animés.
Lui, il veut des dessins animés classiques.
Voilà, des vrais dessins animés. Je suis pas fan. Si, j'aimais bien Chicken Run, par exemple. Ça, c'est des nouveaux dessins animés. Mais c'est vrai que Kung Fu Panda, l'histoire, il n'y a pas tellement d'histoire.
Non, mais c'est très décevant. Gérard.
Alors, c'est donc le pitch. C'est donc l'histoire d'un petit panda boulimique.
Oui.
Qui est fasciné par le Kung Fu. Et qui va, par un concours de circonstances dont je vous laisse découvrir la surprise, être choisi pour être le champion qui va nous débarrasser du mal. Et donc on assiste à tout son entraînement. C'est très très mauvais, c'est très ennuyeux. C'est vrai que c'est décevant. Alors moi, il faut dire que chez moi, comme j'ai ma petite fille qui habite actuellement chez moi avec sa mère, j'ai donc en permanence des dessins animés. Chaque fois que je rentre dans le salon, il y a des dessins animés qui passent. C'est vrai que celui-là, je l'ai gardé pour le lui passer. Non, je doute qu'à 3 ou 4 ans, elle aime ça, parce que c'est vrai que c'est étonnant à quel point c'est raté.
Et peut-être puis votre... deux oies qui accouchent d'un panda.
Vous êtes quand même complètement débile.
Oh oui, et puis c'est pas possible. Un panda dont le papa est une oie. Bah non, mais un dessin animé où les gens parlent, c'est pas possible non plus.
Un panda qui fait du kung fu.
Et tu vois, c'est pas possible non plus.
Ah, si, ça c'est possible.
Parce que les gens différents n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Non, mais... c'est cela... ça que vous voulez dire.
Cela étant, il faut quand même qu'il y ait une explication à ce succès. Parce que c'est arrivé avec un buzz formidable.
Et pourquoi alors?
Bah, incompréhensible.
Tous les autres dessins animés qu'on a cités, de Chicken Run à Wall-E, etc., on a aimé.
Ah, mais oui.
Et c'était donc.
Enfin... Wall-E, j'ai commencé à regarder dans l'avion.
Non, c'est très bien, Wally.
Je m'embêtais,
dans l'avion,
je m'embêtais un peu.
Ouais, mais dans tout est chiant dans l'avion,
dans l'avion.
Contrairement à ce qu'on imagine,
ah non, c'est pas vrai.
Bon lieu. C'est un certain type de comédie qui fonctionne dans l'avion.
Il y a vu dans l'avion le premier jour du reste de ta vie, c'est formidable.
Oui, oui. Ah oui, mais parce qu'il y a un certain type de comédie qui marche, comme par exemple Wall-E. Je suis sûr qu'il faut le voir dans une grande salle avec l'ambiance. Et c'est quand même un très joli film, Wall-E.
Bon, je suis déçu. Hein, vous n'avez pas aimé.
C'est nul.
En même temps, j'en étais sûr parce que moi, j'avais pas aimé non plus. Je me suis dit, tiens, bah ils vont se faire chier.
Tu l'as regardé juste. Attends, tu l'as regardé.
Je l'ai regardé dans l'avion, Kung Fu Panda.
Mais ce qui est amusant, ce qu'il faut dire, c'est qu'au début du film, on commence par un dessin animé.
Je fais des très longs voyages.
Oui. Ce mec-là va jamais au cinéma, mais il est tout le temps dans l'avion.
Et vous avez remarqué qu'on commence au début par un dessin animé, on se dit qu'est-ce qu'il est mauvais, etc. Et en fait, c'est le rêve du personnage du dessin animé. Alors après, on est un peu content de voir d'autres images qui sont un peu plus réussies.
Le début, ça fait peur quand même.
Le début, mais c'est pas réussi quand même.
Gardez le DVD, vous allez pouvoir le regarder avec votre nouveau fiancé quand même.
Quand il sortira de l'école.
Il devrait aimer.
Attends, là, il révise son bac. Pour
il est collé jusqu'à 18h, là, il viendra qu'après.
Allez, on se retrouve demain à 16h. Merci à tous.
Et merci à vous, surtout à demain. C'était Laurent Ruquier. Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr.